Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'avoir choisi les fréquences des radios partenaires de Studio Tamani pour vous informer. Il est 8h à Taboy dans le cercle de Bourem. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le titre de cette édition matinale. À 48h de la Tabaski, les gares routières sont prises d'assaut par des voyageurs qui veulent rejoindre leur famille pour fêter. Au même moment, l'ANASER sensibilise les transporteurs au respect du code de la route. Le procès de l'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires a finalement repris hier. L'ancienne ministre de Finances, Boire Félix Sissoko, a pris la parole et a rejeté les accusations portées sur elle. Le centre de référence de Tombouctou, de basketball de Tombouctou, CRTB, s'adjuge le titre de champion du Mali 2025 de basketball. Cette première victoire du club régional à cette compétition est saluée par les responsables du basketball de Tombouctou. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imirana Kilomaïga à la maison d'Ontonongiré. Bamako vibre depuis quelques semaines aux préparatifs de la fête de Tabaski. Si pour certains, le plus important est de fêter en bonne santé, quel que soit l'endroit, d'autres ne voient pas les choses de cet œil. Pour ces derniers, la fête de Tabaski se passe impérativement au village, entouré de parents. Pour ce départ massif vers les régions, les compagnies de transport sont débordées et de longues files d'attente se créent un peu partout dans les gares. Lala Yahara Touré, dans ce reportage, fait une immersion dans l'ambiance des gares routières à Bamako, suivant son reportage.
À deux jours de la fête de Tabaski, les gares routières refusent du monde. Nous sommes en commune 6 à l'autogare de Sogoninko. L'ambiance y est électrique. Entre les voyageurs, l'emballage des bagages et les chargements des véhicules, les gérants sont visiblement débordés.
Vraiment, il y a du monde ici. Tout le monde vient à la dernière minute. Si les gens pouvaient réserver à l'avance, cela nous éviterait ces cafouillages.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, mais nous faisons de notre mieux pour les satisfaire.
Aucun sacrifice n'est de trop pour aller fêter auprès des siens. Ces propos sont de ces voyageurs que nous avons rencontrés dans plusieurs gares routières de la place. L'attente est souvent longue et pénible, disent-ils.
Je vais fêter chez ma mère. Je suis là depuis 8h et il est bientôt 13h, mais je suis toujours là. J'ai quand même eu mon billet.
Vraiment, c'est bon. Je suis tout de même parvenu à avoir mon billet.
Je pars à Koutala pour la fête.
Je ferai la fête à Kaï.
Je vais à Nioro du Sahel. Je fête chez mon mère.
Il déplore cependant une augmentation arbitraire du prix du transport.
Je vais à Sikasso. Ce n'est pas facile d'avoir les billets aujourd'hui. C'était vendu à 6 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 8 000 francs.
Ils m'ont dit 10 000 francs, mais en fin de compte, je l'ai eu à 8 000 francs.
Les billets sont très chers aujourd'hui.
C'est à 7 000 francs que j'ai eu le mien.
Ces périodes de fête constituent une aubaine pour les compagnies de transport. Cependant, à cause de nombreux accidents de circulation, des voyageurs demandent tout de même le respect des codes de la route par les chauffeurs.
Zéro cas d'accident lors de la fête de Tabaski, tel est le vœu de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER. La structure l'a fait savoir lors de sa traditionnelle opération de contrôle routier à l'approche des fêtes. Selon Blaise Adama Dena, un des responsables de l'ANASER, l'objectif est de sensibiliser les usagers et les amener à respecter le code de la route. Cette campagne en deux phases vise plusieurs carrefours stratégiques à Bamako et à l'intérieur du pays. Blaise Adama Dena, chef du département audit et réglementation de la circulation routière à l'ANASER, nous donne plus de détails au micro de Sali Sissoko.
Les dispositifs que nous avons déjà mis en place, parce qu'il y a déjà quelques jours que la police et nos éléments sont déjà dans la rue. Donc il y a des carrefours, c'est les points névralgiques de la circulation routière. En même temps, dans les autres régions, c'est le même scénario. Kaï, Koulikoro, Sikasso, Sego, Mopti, Koutiala et autres. Nous sommes dans toutes ces villes en ce moment. Et il y a 3 jours que nos équipes sont déjà en opération. Cela va continuer jusqu'à la Tabaski. Les équipes vont ressortir pour au moins couvrir la semaine. Ces opérations ont commencé à porter fruit parce que à l'approche des fêtes, les échos des accidents parviennent un peu partout. Cela n'est pas le cas d'abord.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. Le procès de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires a enfin débuté ce mardi matin à la cour d'appel de Bamako. Cela après plusieurs renvois pour des raisons de santé de l'ex-ministre de Finances, Boire Félix Sissoko. Cette dernière a enfin pris la parole hier et a récusé les accusations portées à son encontre. L'audience a été suspendue dans l'après-midi et reprendra aujourd'hui. Notre reporter Fatoumata Kodjo était dans la salle d'audience.
tout de blanc vêtu, Madame Boire Félix Sissoko a fait son entrée dans la salle d'audience à 10h46. Elle était accompagnée par des éléments de la protection civile et des membres de sa famille qui l'ont aidée à s'asseoir devant le juge. Plusieurs personnalités publiques, dont l'ancien PM Moussa Mara, témoins dans cette affaire, étaient dans la salle. À l'ouverture de l'audience, le juge a invité les témoins à quitter la salle et a ensuite appelé les co-accusés à la barre. Le ministère public a rappelé les charges retenues contre eux dans ce dossier de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Il s'agit notamment d'usage de faux, surfacturation, trafic d'influence, violation du code de marché public, détournement et atteinte aux biens publics. Des faits punis par le code pénal malien dans l'information judiciaire. Après une heure de suspension, le procès a repris. Ses avocats à ses côtés, l'ancien ministre des Finances a pris la parole et n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle a affirmé que les actes ont été posés conformément à la loi. Boire Félix Sissoko s'est dit étonné des accusations à son encontre, estimant qu'elle n'a pas été associée en amont à ce dossier. Selon l'accusé, la lettre d'intention de l'achat de l'avion a été signée par Madame Touré, ministre déléguée chargée du budget à l'époque. Il faut rappeler que Mme Boire Félix Sissoko ainsi que plusieurs anciens ministres et officiers de l'armée sont accusés dans cette affaire qui a éclaté depuis 2014.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Notre société accorde une importance particulière au mot « merci » qui comporte plusieurs significations. Il est utilisé fréquemment pour exprimer une reconnaissance envers quelqu'un. Mais dans d'autres cas, « merci » peut refléter la déception ou la frustration. Aujourd'hui, les traditionalistes regrettent que la valeur de ce mot s'estompe et s'éloigne de la tradition, mais surtout de la sincérité qu'il véhiculait autrefois. Cheikh Amadou Adjara nous explique son importance dans ce dossier de la semaine.
Merci est issu du latin mercedem et emprunté par la langue française au Xe siècle. Au fil des époques, le mot a pris plusieurs significations. Quelle est la perception du mot merci par ses citoyens à Bamako?
Il y a une frustration intérieure qui prend forme en moi. Le fait que la personne n'a pas pu reconnaître l'effort que j'ai déployé pour lui prêter main forte.
Ça démontre à la fois le mécontentement et l'allégresse.
Et le fait qu'une personne t'ait dit merci, ça fait tellement plaisir et ça peut t'encourager à rendre un autre service à la personne, quoi.
Oui, bien au-delà d'un simple mot et de son caractère de politesse, merci joue un rôle fondamental dans nos quotidiens. Le sociologue Abdoulaye Kone souligne l'importance de merci dans notre société.
Merci a fermé les liens entre deux individus. Le donateur, s'il sent que le récepteur a toujours conscience du minimum de bienfaits, ça le pousse à encore aller vers ses gens. Et l'assistance encourage aussi le donateur à faire du bien encore à l'égard du récepteur.
La valeur de merci semble se détériorer de nos jours, affirme le traditionnaliste Djangine Koulibaly. Il déplore le désintérêt de la jeunesse à valoriser cette marque de gratitude. Ce qui est un manque de respect contraire à nos traditions, selon lui.
Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas le temps de dire merci. Dès lors que tu te sens frustré par le remerciement de quelqu'un, c'est parce que tu lui as causé du tort. Sinon, merci n'est pas une insulte. Au moment où tu viens à l'aide à ton prochain et que ce dernier refuse de te dire merci, après qu'il soit satisfait du service rendu, cela démontre tout simplement qu'il n'est pas bien éduqué. Même si tu donnes de l'argent à quelqu'un, en contrepartie d'un soutien à ton égard, il est judicieux d'accompagner cet argent avec des remerciements.
Pour entretenir le mot merci dans notre société, le sociologue préconise d'inculquer aux enfants la valeur du mot merci.
À l'école, nous devons les apprendre à dire merci. Ça doit être instauré aussi. On fait des chansons par rapport à ce mot merci. On fait des sketchs ou bien des pièces qui doivent être jouées pour les enfants en les apprenant à dire merci.
Merci est bien plus qu'une expression linguistique. C'est un geste galvanisateur permettant de rendre l'appareil auprès d'un prochain. Elle construit et défait les relations entre les individus. En tout cas, la valeur de merci continue d'influencer les personnes.
Parlons sport à présent. Le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRTB, sacré champion du Mali de basketball chez les messieurs. L'équipe de la cité de 333-100 s'est imposée devant le stade malien de Bamako lundi lors de la dernière journée de play-off. C'est la première fois qu'un club régional ait reçu cet exploit, de quoi rendre fière la population de Tombouctou avec à sa tête le président de la Ligue régionale de basketball, Baba Mahaman, est au micro de Lala Aïcha Ouellet Infa.
C'est surtout le sentiment de joie pour avoir donné ce titre à toutes les régions du Mali et particulièrement à la ville d'origine du centre de référence de Tombouctou. Tout le monde était content. Et surtout des sentiments de satisfaction parce que c'est un travail plusieurs années avec les ressources humaines, l'encadrement, les responsables administratifs de l'équipe, les athlètes, nos supporters, pour un objectif bien déterminé. Voilà, aujourd'hui, nous sommes champions du Mali. Et c'est cette joie qui m'anime aujourd'hui.
Voilà, c'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilomaya. Merci de l'avoir suivi. Élever en solo son enfant garçon n'est pas chose aisée pour une maman. Cette tâche est encore plus lourde quand ceci traverse l'âge de la puberté. Cette situation génère une certaine détresse chez beaucoup de mères qui élèvent seules leurs enfants garçons. C'est le sujet de notre magazine Toutes les femmes du Mali. Des traditionalistes, des mamans et d'autres spécialistes de la question des enfants se sont exprimés sur la question dans ce magazine, une réalisation de Fatia Tara.
Mère des jumeaux, un garçon et une fille, cette dame qui a requis l'anonymat a divorcé avec les pères de ses enfants depuis plusieurs mois. Elle souffre aujourd'hui les martyrs pour éduquer les garçons de la fratrie.
J'ai des jumeaux, une fille et un garçon. La fille est très docile, mais le garçon est malheureusement très effronté. Il me tient tête. En plus, il fréquente des jeunes gens qui prennent des excitants. Quand je le gronde, il me menace et me dit « Laisse-moi tranquille, une femme ne pourra jamais me commander. Je suis un homme majeur. »
Totalement. À Bamako, Mopti, San et Sikasso, beaucoup de gens s'accordent sur la difficulté pour les mamans d'élever les garçons. Certains conseillent cependant aux mères de tenir compte de la jeunesse de l'enfant et d'être patient et raisonnable.
Les parents doivent faire attention à ce qu'il dit devant son enfant et à ce qu'il regarde à la télévision. Il est important de montrer de l'affection et de l'attention aux enfants.
Souvent, dans ce monde indulgent, mais parfois, il faut aussi savoir poser des limites fermes.
Si ton enfant est récalcitrant et que tu te comportes comme lui, c'est comme s'il n'avait pas de parents.
Pour des psychologues, l'indiscipline et la désobéissance de certains garçons vis-à-vis des parents découlent du laxisme dont certaines mamans font preuve, chose qui les rattrape toujours, selon la psychologue Aïcha Doumbia.
Moi, j'ai une voisine comme ça. Son garçon la brave. Il n'a pas d'égard pour sa mère. Mais je pense que c'est la faute à la maman, parce que quand les autres parlent à son garçon, elle se fâche. Du coup, le garçon n'a pas peur d'elle, ni de ses sœurs. Il manque du respect à ses mamans.
Les traditionnalistes Amaguindo affirment que cette situation est due à un phénomène originel, celui du refus de soumission du sexe masculin au sexe féminin. Les traditionnalistes conseillent donc aux mamans de se faire aider par les oncles pour éduquer les enfants.
Le garçon est toujours éduqué dans la famille de son père pour éviter vraiment des différences, des malentendus, et que l'enfant devienne bandit ou autre là. On l'éduque dans le cadre de la famille de son père. Une femme n'est pas mariée à un seul homme, mais elle est mariée à une famille. L'homme, c'est un élément de la famille. Donc, l'enfant est confié aux autres membres de la famille, c'est-à-dire que l'oncle, le grand frère.
Le sociologue Dr Draman Touré d'ajouter que la désobéissance des garçons à l'égard des mamans vient du fait que la femme est naturellement permissive et tolérante face à ses enfants.
Les mamans sont, du point de vue psychologique, elles sont trop permissives par rapport au papa. Les papas, quand on essaie de voir dans la famille, les papas, ils incarnent d'abord l'autorité dans la famille. Parce qu'une famille dans laquelle il y a le papa, ou bien il y a l'oncle maternel ou l'oncle paternel, ce sont des gens qui incarnent l'autorité. Donc, il y a beaucoup de comportements que l'enfant ne peut pas prendre. Parce qu'il va dire qu'il y a une autorité qui est là et qui peut sévir à tout moment.
Selon Dr Touré, l'absence de certaines mamans à la maison à cause des obligations liées à la survie comme le travail, complique selon lui l'éducation d'un garçon notamment. Il recommande de la rigueur aux mamans.
Et surtout si la maman travaille, elle n'est pas sable à la maison. maison. Ces enfants n'ont pas de suivi. Parce que pour éduquer, il faut quand même un suivi de ces enfants-là. Et à la maison et à l'école. Comme on le dit, la famille constitue la première cellule de l'éducation de l'enfant. Parce que il est très facile de pouvoir, n'est-ce pas, élever la fille que les garçons. Donc, on doit être un peu rigide, pas trop rigide, mais on doit quand même avoir des décisions fermes par rapport à l'éducation de ces enfants-là.
En somme, selon nos intervenants, pour maîtriser l'éducation d'un garçon, il faut revenir à l'éducation collective des enfants, comme dans nos sociétés traditionnelles.